il est envisageable intuitivement d'étudier sa captation partielle, sa rétention, pour un usage dans des périodes estivales. La conclusion, c'est que on n'est pas obligé de tout planifier pour un partage de pénurie. On peut anticiper, stocker intelligemment et se partager une ressource qui est plus abondante pendant les périodes sèches. Il faut absolument continuer à étudier, à partager et à réfléchir avec tous les acteurs de l'eau. Et il ne faut pas qu'il y ait de parti pris ou de dogme sur ce sujet, à mon sens.
L'eau, il est peut-être intéressant de la faire rentrer dans des circuits, en fait. On essaie de faire de l'économie circulaire, il faudrait peut-être aussi la faire avec l'eau. La France le fait assez peu, l'Espagne, qui a de vraies pénuries, le fait beaucoup, avec ses eaux usées, avec la réutilisation des eaux, tu en as parlé dans ta conférence, des eaux de piscine. Est-ce que il n'y a quand même pas un risque, il n'y a pas des précautions à prendre à ce niveau, à ce niveau-là ?
À nouveau, tout comme le stockage de l'eau, il va falloir étudier. C'est-à-dire que quand on prélève, par exemple, une station d'épuration urbaine va traiter toutes les eaux qu'on a prélevées et après traitement va les rejeter dans la rivière. Ça permet notamment le débit d'étiage de la rivière et son alimentation. Si une partie trop forte de cette eau était réutilisée pour une activité qui n'existait pas, une nouvelle activité très consommatrice d'eau, bah finalement, oui, on
fait... Comme des data centers.
Exactement. Et donc là, dans cet exemple-là, bah, on fait un projet de réutilisation des eaux usées traitées, donc ça a l'air noble, mais si on regarde l'analyse de cycle de vie, le bilan global, c'est pas forcément pertinent. Que ce soit pour les eaux de piscine, la réutilisation des eaux usées urbaines ou industrielles, il est indispensable de raisonner en termes d'analyse de cycle de vie pour s'assurer que le projet, en plus d'être viable et pertinent au niveau de l'eau, est également intéressant d'un point de vue carbone, kilowattheure. Donc il faut pas raisonner que eau, il faut vraiment raisonner eau, énergie, réactif. Et la dernière question aussi, c'est que il faut, sans être surprotectionniste, s'assurer que tous les projets de recours aux eaux non conventionnelles sont, d'un point de vue sanitaire, sans contrainte vis-à-vis des usagers, des cultures, des animaux. Donc il y a quand même une partie sanitaire où il est normal que ces projets-là mettent un petit peu de temps et qu'on ne puisse pas faire une accélération brutale pour rattraper un retard. On est en retard et il faut développer des projets intelligents.
Notre consommation a baissé ces dernières années. On est passé de 180 litres par personne, tu me l'as dit, pour nos usages domestiques, notre petite vie, hein, et nos usages récréatifs, à 150. Je pensais qu'avec l'usage des piscines, par exemple, la généralisation des piscines dans beaucoup d'endroits, je croyais que ça aurait augmenté, mais non, on a baissé individuellement notre consommation d'eau. Mais ce sont des solutions donc collectives qu'il faut trouver. L'individuel est important, mais c'est le collectif. On aurait pu parler évidemment de la réduction de la grosse perte d'eau potabilisée sur les réseaux. On aurait pu parler des solutions telles que les toilettes sèches pour l'individuel, les économies dans les bâtiments publics qui sont possibles là aussi, qui peuvent amener de grosses économies. Mais j'ai envie pour le mot de la fin, peut-être que tu donnes un mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux auditeurs de l'ours et la carotte pour finir, avant de leur donner des conseils de site pour se renseigner?
Alors, en conseil, le sujet de l'eau et du changement climatique sont assez angoissants, mais, et c'est quand même la bonne nouvelle, en fait, on a des retours d'expérience, on a des exemples, on a des trajectoires, on a de la connaissance qui font que finalement, on a une bonne vision du défi, on a des solutions qui nous permettent d'atteindre ce défi, si tant est évidemment qu'on les prenne tous ensemble. C'est un petit peu comme, alors tous ensemble ou pas même, parce que c'est comme la fable du colibri, hein, chacun doit faire sa part à son échelle. Je vous invite à aller sur un site internet qui est assez sympa. Alors je vous avais cité Explore 2, vous pouvez évidemment aller sur ce site, et vous avez également l'outil Aqueduc du WRI, World Resources Institute. Et allez...
Celui-là est en anglais, il faut prévenir quand même, il n'y a pas la version française.
Exactement. Là, bon, ça vous fera un petit cours d'anglais. Et donc, le water stress, qui est le stress hydrique, et ben vous allez avoir une carte mondiale et vous allez certainement avoir des surprises. C'est très sympa, c'est assez pédagogique et vous allez vous rendre compte qu'il y a des zones où on pensait que c'était sans contrainte au niveau de l'eau, et les projections à 2050-2080 montrent que non. C'est lié aux différents préleveurs, c'est lié à la présence ou non de nappes phréatiques. Et puis vous avez des zones où finalement qui sont a priori plutôt agréables pour les prochaines décennies. Et ça, ce sont des projections on ne fait pas énormément de choses. Et moi, je suis un éternel optimiste. Je pense qu'il y a plein de métiers, il y a plein d'envies. On n'a jamais autant parlé de ce sujet. On n'en parlait pas il y a 25 ans ou qu'entre experts. Donc, mon mot de la fin, il est assez simple. Haut les cœurs et il n'y a plus qu'à. On a des solutions et ensemble, on va réussir. Et de toute façon, on n'a pas trop le choix.
Merci Julien Louchard, au revoir.
Au revoir, merci à vous.
L'ours et la carotte est écoutable sur Internet. À la semaine prochaine.
Parce qu'il y fait bon vivre, que la vie s'écoule au rythme des cuicas, de la samba et de la mélodie portugaise, et parce que cette ville a quelque chose de vraiment particulier, voilà pourquoi Khalil nous invite à venir découvrir l'âme de Rio de Janeiro.
Je m'appelle Khalil Belage, j'ai 27 ans et aujourd'hui je vous amène à Rio de Janeiro. Je suis parti exactement le 16 septembre 2024, j'ai habité plus ou moins 9 mois à Rio. Je me souviens encore du premier jour, je suis sorti de l'aéroport, il pleuvait, donc j'étais un peu deg. Il y a un chauffeur Uber qui est venu me récupérer, je lui ai demandé ce que les cariocas faisaient lorsqu'il pleuvait, il m'a dit les magasins, du coup j'étais un peu deg. Finalement l'après-midi, il y avait un très beau temps, je suis allé à Copacabana, j'ai pu voir la statue du Christ Rédempteur depuis la plage, donc ça c'était plutôt incroyable. Je me suis baladé un peu partout, j'étais un peu comme un enfant, voilà, c'était magnifique. Et la statue du Christ Rédempteur, ce qui est bien, c'est qu'on peut la voir un peu depuis n'importe quel point de Rio. C'est ça aussi qui rend, je pense, cette ville un peu particulière. Les Brésiliens sont très croyants et à Rio, on sent qu'ils sont même fiers d'avoir cette statue. Ils la montrent à chaque touriste, chaque chauffeur Uber, il a une statue de Jésus à l'intérieur de sa voiture. En fait, ils aiment leur ville, ils aiment leur ville, ils aiment leur pays, ils aiment qui ils sont. Honnêtement, j'avais aucune attente. Je sais que j'ai juste eu l'idée de prendre un billet d'avion, aller à Rio, y habiter pendant un an. J'ai pensé à des lieux, à des villes dans le monde où je pourrais aller, où en général les gens sont heureux de voyager là-bas, soit d'y voyager, soit y habiter. Et du coup, j'ai pensé à plein de trucs. J'ai pensé à, je sais pas, Madrid, Barcelone. Peut-être Malte, j'ai pensé aux États-Unis, et lorsque j'ai eu l'idée de Rio de Janeiro, ça a été un choix en fait. Au niveau des paysages, c'était magnifique, mais je savais que ça allait être magnifique. Je dirais peut-être ce qui m'a surpris, c'est vraiment la gentillesse des gens. C'est pas un cliché, les Brésiliens sont vraiment très gentils, ils te mettent très à l'aise, tu peux rigoler vraiment facilement dans n'importe quelle situation. Tu peux aller à la pharmacie pour acheter, un médicament, tu vas rigoler avec la caissière, alors qu'en France, c'est pas du tout comme ça. Pour aller au Brésil, juste pour voyager comme ça, vous pouvez y aller si vous avez un passeport français. Vous pouvez rester 3 mois là-bas. Moi, je savais que je voulais rester plus de 3 mois. Du coup, j'ai fait des recherches pour savoir comment je pouvais faire pour rester plus de 3 mois là-bas. Et du coup, j'ai fait un visa vacances-travail qui me permettait de travailler là-bas directement sur place, chose que je n'ai pas fait. Moi, le but, c'était juste de rester 1 an au Brésil et de pouvoir profiter. Du coup, il faut simplement se rapprocher du consulat brésilien qui est à Marseille. Il faut soit les appeler, soit vous aller sur leur site. Et en gros, tu trouves la liste des documents qu'il faut préparer. Tu fais ta demande et les documents sont vraiment très très simples. Hein. C'est le casier judiciaire, une lettre de motivation pour dire que oui, tu postules au visa vacances-travail, mais que ce n'est pas vraiment pour travailler. Il faut que tu montres que tu as plus de 2 500 € sur ton compte, plus le billet d'avion aller. Donc en gros, ils te demandent d'avoir plus ou moins 3 000 balles. Et donc moi, ça a été ça le truc le plus dur à avoir. Alors, au quotidien, pour les Brésiliens, c'est plutôt galère. Moi, je vais te dire que c'était pas cher parce que bah, j'arrivais à vivre avec plus ou moins 800 € par mois, ce qui est ridicule quand on compare la vie ici en France. Par contre, pour un Brésilien, je crois que le SMIC au Brésil, il doit être équivalent à 300 €, quelque chose comme ça, ce qui est très maigre. Et leur loyer, ça doit être la moitié de leur salaire. La nourriture, ça reste cher, je trouve, quand même, au Brésil. C'est vraiment le truc qui m'a un peu choqué. T'as aussi beaucoup de mendiants, ça c'est aussi un des trucs qui m'a marqué. T'as énormément de mendiants, t'as énormément de crackheads. Tu vois des SDF qui passent la matinée, enfin qui passent la journée entière à ramasser des bouteilles en plastique, des boîtes de conserve, et en gros le soir ils prennent le bus pour aller déposer ça à une usine de recyclage pour récolter 3 réals, tu vois. Enfin, pour récolter vraiment, vraiment rien. Beaucoup de gens travaillent au black. Ça va dépendre du secteur d'activité, ça va dépendre du style de travail que tu as. Du coup, les gens, je dirais, en favela, s'ils travaillent au black, bah en fait, ils vont travailler en fonction du besoin. Après, j'ai rencontré aussi des gens qui bossent dans des restaurants, qui bossent 6 jours sur 7, on va dire du classique. Je dirais plutôt que les Brésiliens bossent énormément, ils font beaucoup d'heures. Par contre, je trouve qu'ils sont assez lents dans le travail, au niveau du service, ils sont lents. Si tu vas au supermarché, tu peux voir une caissière qui va vraiment prendre son temps pour scanner les produits alors qu'il y a une file énorme. Je trouve que par rapport à la France, je me suis vraiment fait la remarque de ces gens-là, ils ne pourraient pas venir travailler en France. Après, ce n'est pas vraiment une critique. En fait, ils ne sont pas pressés, ils sont très tranquilles. Je dirais que pour les Brésiliens, il n'y a pas de petits problèmes en fait. Du coup, ce n'est pas vraiment un peuple qui va râler sur la route, ce n'est pas un peuple qui va râler pour rien. Ils ont des vrais problèmes. Ils ont des vrais problèmes financiers, ils ont des vrais problèmes. Les petites choses qui emmerdent n'importe quel Français, eux, ça les emmerde pas. En fait, tu vas avoir des hôtels de luxe, tu vas avoir un quartier de riches, mais vraiment de très 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 riches. Et à 5 minutes de ce quartier, tu auras la plus grande favela d'Amérique latine. Rocinha, par exemple, tu vois, où il y a à peu près 300 000 habitants. Donc, juste à côté de Rocinha, par exemple, tu as le quartier, enfin à côté, il y a Leblon et Ipanema, qui sont quand même deux quartiers riches de Rio, deux quartiers qui sont magnifiques. Et les populations se mélangent, je dirais. C'est ça qui est assez impressionnant, c'est de vraiment voir un grand hôtel de luxe, et juste derrière, sur la colline, tu vois des gens qui sont entassés. Mais tu as l'impression qu'ils s'amusent bien quand même. Il y a beaucoup de musique, donc c'est marrant. Moi, en fait, je suis allé habiter en favela parce que je voulais me sentir en sécurité. Et en fait, pour un étranger comme moi, du coup, qui vient habiter au Brésil, c'est dans les favelas qu'il va se sentir le plus en sécurité. On est ultra protégé là-dedans parce que, entre guillemets, on leur apporte des sous. Du coup, on loue des appartements chez eux. Si moi, j'habite là-bas et que, par exemple, je veux m'acheter à manger, je veux aller à un fast-food, je ne vais pas hésiter. Donc, entre guillemets, ils préfèrent que je consomme chez eux plutôt que je consomme à Copa, Botafogo, etc. Donc en fait, on est très bien accueillis. Et puis, personnellement, je voulais, entre guillemets, vivre comme un Brésilien. Donc, j'avais pas envie d'habiter dans les quartiers touristiques. Je me suis dit, si je veux vraiment avoir des vraies conversations avec des carioca, je me suis dit qu'il fallait que j'habite là-bas. Carioca, bah, c'est un gars de Rio. Enfin, c'est un gars ou une meuf de Rio, juste qui profite à fond de sa vie, je dirais. Qui va à la plage. En général, le coucher de soleil se fait à Arpoador. En attendant le coucher de soleil, il y a une après-midi à la plage. Ils jouent énormément au foot, ils jouent énormément au ballon, que ça soit volley, foot, au tennis aussi, ils sont vraiment forts. Ils sont très impressionnants, ils sont très sportifs aussi. À Copacabana et à Ipanema, à peu près à chaque 50 mètres, tu peux voir du matériel pour faire du street workout. Donc en fait, si vous aimez faire du sport, vous allez là-bas, il n'y a aucune excuse. Les Brésiliennes sont vraiment beaux. Ils prennent soin de leur corps, c'est très important pour eux, prendre soin de leur physique. D'ailleurs, il y a un truc qui est un peu bizarre chez eux, c'est que leur fond d'écran sur leur iPhone, c'est eux-mêmes. C'est genre pour vraiment genre te montrer à quel point leur visage, c'est très important, ils prennent vraiment soin de leur corps, c'est un truc qui est très important pour eux, c'est marrant. Moi, personnellement, je ne m'y connais pas en chirurgie esthétique. Enfin, tu vois, je suis pas... Je ne m'y connais pas forcément, mais c'est vrai que j'ai rencontré pas mal de femmes et en ayant des conversations avec elles, elle va te dire « Ouais, je me suis fait refaire les lèvres. » En général, c'est les lèvres surtout. Après, ça va être le cul, ça va être... Elles vont s'enlever des graisses un peu de partout. Et en fait, ils m'ont expliqué que là-bas, c'est pas cher du tout. C'est très répandu, mais c'est surtout que c'est pas cher. Donc par exemple, même en favela, où du coup on va dire que c'est un milieu qui est défavorisé, tu vas avoir beaucoup de meufs avec les seins refaits. Beaucoup. Et du coup, moi je posais la question, j'étais en mode, mais les gars, je comprends pas, c'est la galère, mais en même temps, les meufs, elles ont les seins refaits. Mais il y a aussi ce truc, je pense, peut-être de mode, où vu qu'il y a certaines meufs qui vont le faire, les autres vont suivre. Ça va être un objectif, mais qui sera, j'irais peut-être, facile à obtenir. Du coup, ouais, croiser des gens avec des AK-47, avec des armes de guerre qui sont vraiment qui sont impressionnantes à voir pour de vrai, du coup, au début, c'est étonnant. J'irai pas jusqu'à dire que je trouvais ça drôle, voire amusant, parce qu'en vrai, ça reste quand même des objets qui sont faits pour assassiner des hommes, mais tu t'y habitues. Personnellement, j'ai pas été forcément choqué de voir des mecs lourdement armés. C'est pas que j'en avais vu avant, mais c'est juste que j'ai compris que c'est comme ça que ça fonctionnait là-bas. Du coup, je me suis dit, finalement, ça va. Je me suis jamais senti menacé par ces hommes. Je me suis même retrouvé à jouer au foot avec eux. Le dimanche matin, du coup, on allait au stade de la favela. Et donc déjà, à côté des tribunes, il y a des mecs qui sont armés au cas où il y a une attaque ou au cas où il y a je sais pas quoi. Puis tu te retrouves à jouer au foot avec eux, à rigoler avec eux, à partager un repas, un coca, une bière aussi, bien évidemment. Donc en fait, discuter avec eux, pour eux c'est normal d'avoir des armes, pour eux c'est normal de protéger leur favela. En fait, c'est comme s'il y avait une société à l'intérieur de Rio. Chaque favela fonctionne en autonomie, et donc eux ce qu'ils vont t'expliquer, c'est qu'ils vont se protéger avec ces armes là. Après, j'ai rencontré des Français là-bas qui vont te dire, enfin qui m'ont dit que clairement eux ça leur faisait peur, ce qui se comprend absolument, tu vois. J'ai eu peur à ma deuxième semaine. Du coup, moi, je m'étais pris un Airbnb pendant 3-4 jours pour faire un peu les trucs de touriste. À la fin de cette petite semaine, je suis allé faire un volontariat dans une auberge de jeunesse qui se trouvait dans une favela. Et le chauffeur Uber qui m'a amené là-bas, en fait, il est allé un peu plus loin que la rue où il devait tourner, donc pour arriver à l'entrée de la favela. Et au Brésil, ce qui se passe, c'est qu'il y a des voitures de police qui sont à chaque entrée de favela. Juste histoire, genre, de dire, on est là et... faites vos trucs, mais nous, on va pas laisser rentrer aussi n'importe qui. On va pas laisser rentrer des gens qui sont suspects. Sauf que mon chauffeur Uber, du coup, lui, il a dépassé la rue, je dirais d'à peu près quoi, 20 mètres. Il a fait une marche arrière, et le fait qu'il fasse cette marche arrière, les flics, ils ont trouvé ça archi suspect. Donc, ils ont commencé à lui demander de couper le moteur. Il a baissé la vitre. Le flic a pointé son flingue sur le chauffeur. Moi, au début, j'étais en mode, bon, peut-être que c'est normal, peut-être qu'il est habitué. Sauf que là, en voyant le chauffeur lever les mains, après, il a commencé à me parler. Je le voyais qu'il était vraiment très, très, très stressé. Donc, je me suis dit, bon, OK, c'est pas si normal que ça. J'ai baissé ma vitre. Là, le flic, du coup, il commence à pointer son flingue sur moi. Et là, j'étais en mode, oh là là, qu'est-ce qui se passe? En fait, il s'est pas passé grand-chose. Juste mon chauffeur, il s'est pris une énorme soufflante par le flic. Il lui a dit, ne refais plus jamais de marche arrière comme ça, dégage. J'ai eu peur, mais c'était surtout bizarre. Je m'y attendais pas. Et je m'attendais pas à ce qu'un flic pointe son flingue sur moi, quoi. Les mecs de Rio, en général, ils vont mal parler de la police là-bas. Il n'y a vraiment pas du tout des bons rapports entre la police de Rio et les Carioca. Il y a déjà une descente. Moi, je me suis déjà fait réveiller une fois en pleine nuit par des flics qui rentraient dans la favela. Donc tu entends un échange de coups de feu entre les habitants et les policiers. Il y a déjà un hélicoptère qui est passé au-dessus de chez moi. Ça, c'était assez bizarre aussi. Les Brésiliens adorent les chiens. Donc même s'il y a des chiens errants, je pense que dans peut-être plus d'une famille sur deux, il y a un chien, même des chats aussi. Là-bas, il y a beaucoup de chiens saucisses, les teckels, je dirais les pitbulls aussi, ça y en a énormément. C'est des énormes chiens qui pèsent 30-40 kilos, ils sont magnifiques et très gentils d'ailleurs. Les Brésiliens sont très familles, ils sont très solidaires, ils sont très cool, ils sont très faire la fête, beaucoup de musique, beaucoup boire aussi. Ça, j'ai vraiment trouvé que les Brésiliens étaient des gros poivrons. En vrai, les caipis, c'est plus les gringos qui vont en boire, enfin les étrangers comme moi. En vrai, je trouve que les Brésiliens, c'est des buveurs de bière, mais des gros buveurs de bière. Même au resto, quand tu commandes une bière, on te sert soit une pinte, soit un 700 ml. Il n'y a pas le demi. Bon, en tout cas, j'en ai pas vu. Mais en général, c'est tu demandes une bière et on te sert genre la grosse bouteille. Là où j'habitais, du vendredi au lundi, chaque jour, je voyais des mecs à 9h du mat, ils avaient déjà enquillé je sais pas combien de bouteilles de bière sur la table. Donc il était 9h du mat, je partais à la plage. Du vendredi au lundi, c'était la fête. Et c'était bière, musique. Même devant les pharmacies, il y a des grosses enceintes avec de la musique. Devant les restos, il y a de la musique. Il y a de la musique de partout. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vrai que si tu sors dans la rue, surtout à Rio, faut pas être étonné que des gens viennent te parler, ne serait-ce que pour te faire un compliment, pour te demander quelque chose, pour te demander le chemin. En fait, les gens sont pas du tout fermés à l'idée de parler aux inconnus. Ils ont pas peur des inconnus et des choses qu'ils ne connaissent pas. Au Brésil, si par exemple tu vas à la plage, attends-toi à ce qu'il y ait des vendeurs ambulants, attends-toi à ce qu'il y ait de la musique de partout. L'espace privé en dehors de chez soi, c'est pas que ça n'existe pas vraiment, mais attends-toi à ce qu'il soit perturbé. Il se passe plein de choses en fait. Il y a beaucoup d'informations à la minute. Juste si tu vas marcher sur 30 mètres, il va se passer énormément de choses. Il y a un mec en vélo qui va faire n'importe quoi, t'as trois scooters qui vont passer, t'as un groupe de jeunes qui vont mettre de la musique à fond, danser, t'as des vendeurs ambulants qui vont crier, t'as des très belles femmes qui vont passer. Donc en fait, au niveau des yeux, il se passe énormément de choses et des oreilles aussi du coup. Ils dansent super bien les Brésiliens, ils savent faire la fête. Ouais, j'ai fait le carnaval de Rio, ça c'est impressionnant. Il y a énormément de monde et ce qui est cool je trouve, c'est que les gens sont pas forcément bien habillés. Enfin, pour qu'un Brésilien soit stylé, ça va pas se passer au niveau de ses vêtements, ça va plutôt se passer au niveau de son attitude, de sa façon de marcher, sa façon de parler, sa façon de danser, etc. Qui je trouve les rend beaucoup plus cool. Tu vois, ils vont aller en soirée le vendredi soir, ils vont pas sortir leur plus belle robe. Ça va être vraiment le classique short maillot de foot Havaianas. Et pourtant, ils vont rencontrer plein de gens, ils vont s'amuser, ils vont se faire remarquer. La nourriture brésilienne, c'est vraiment un des trucs qui m'a le plus déçu là-bas. Les Brésiliens, en fait, ils aiment énormément de choses, je dirais, mais ils n'arrivent pas à choisir. Du coup, ils mettent tout. Et même quand tu vas au restaurant, tu vas demander, je sais pas, par exemple, tu vas demander une escalope à la milanaise. En accompagnement, ils vont te mettre du manioc, des haricots, du riz, des pâtes, de la purée, des carottes râpées, des feuilles de salade et une tomate cerise. Tu vois, donc en fait, ils vont mettre un peu de ce qu'ils aiment, un peu de tout. Mais sauf que culinairement parlant, franchement, il n'y a rien qui m'a impressionné là-bas. Enfin, moi, ce qui m'étonnait, c'est que du coup, ils me demandaient « Alors, est-ce que t'aimes la nourriture brésilienne ?» Et je leur disais, mais moi, les gars, je suis français et en plus, je suis tunisien. Donc en fait, on joue même pas dans la même compétition. C'est déjà en France, on mange très très bien. Chez moi, on mange arabe. Donc je leur ai dit « Non, vous, votre bouffe, je l'aime pas. » Et du coup, ils étaient choqués parce que eux, ils adorent leur bouffe. Ils en sont très fiers. Mais vraiment, des fois, je prenais des photos de leur assiette, mais c'était... Ah, eux, ils adorent leur bouffe, par contre. Eux, ils vont te dire « Oh, la nourriture brésilienne, elle est géniale, c'est trop bon. » La France, c'est un pays... Tu peux faire 9 heures de voiture ou 10 heures, voire même plus. Mais en vrai, au Brésil, tu vas faire facile 24 heures de bus et t'auras même pas fait, un quart du pays, quoi. Donc en fait, tu vas faire des très 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 longs trajets. Moi, ce qui m'a le plus étonné là-bas, c'était les paysages. À Rio de Janeiro, du coup, tu vas avoir la plage. À 100 mètres de la plage, tu vas avoir une colline. À côté, tu vas avoir un lac. Et encore une fois, le fait de pouvoir voir une statue de Jésus depuis à peu près n'importe quel point de la ville, ça reste assez impressionnant. Que tu sois chrétien ou pas, que tu sois croyant ou pas. Quand tu vas au pied de la statue, Du coup, moi, j'y étais allé un dimanche parce que je me suis dit que c'était comme un lieu de culte pour les chrétiens. Et j'ai eu de la chance, quand j'y suis allé, il y avait un mariage. Donc, en fait, tu peux voir vraiment les chrétiens croyants, du coup, quand ils vont voir cette statue, ils sont vraiment émus. Ils sont très contents, très émus. T'en as qui pleurent, t'en as qui se recueillent. Et même si t'es pas croyant comme moi, franchement, juste c'est beau à voir. Le portugais, je dirais que c'est une langue qui se rapproche plus du français que de l'espagnol. Enfin, l'espagnol et le portugais sont quand même très proches. Mais même si j'ai appris le portugais, il y a énormément de fois où je me retrouvais à chercher un mot et juste je prenais le mot français, je rajoutais ar ou er et ça passait, tu vois. C'est une belle langue. Les Brésiliens, ils parlent un peu en chantonnant, ils mettent beaucoup de rythme quand ils parlent. Je trouve ça très agréable à écouter, ils ont des belles musiques aussi. Et je dirais même que parler le portugais, moi, ça me mettait de bonne humeur. Moi, mon mot préféré en portugais, c'est você. Ça veut dire tu ou toi. Et je trouve qu'en fait, c'est beau comme mot juste pour dire toi ou tu sais, pour dire tu. Je trouve que você, c'est vachement joli. J'ai fait énormément de rencontres marquantes. En fait, à Rio, ce qui est aussi impressionnant, c'est que tu peux rencontrer, je dirais, le monde entier. Si tu veux passer des vacances agréables, si tu veux vivre dans un endroit qui est agréable, tranquille, il faut aller au Brésil, il faut aller à Rio. Les gens, ils te rendent la vie plus simple, je trouve. Le fait qu'il y ait Copacabana, qu'il y ait Ipanema, le fait qu'il y ait les deux frères, le fait qu'il y ait le Christ rédempteur, le fait qu'il y ait le Maracana, le fait qu'il y ait Flamengo. Cette ville est quand même assez particulière. En fait, c'est très difficilement explicable. Expliquer le Brésil à quelqu'un qui n'est pas allé, expliquer Rio à quelqu'un qui n'est pas allé, c'est difficile parce que avec les étrangers, l'expression qu'on répétait souvent, c'était Rio vibes. On se disait, ouais, ça c'est Rio vibes. En fait, on ne trouve pas vraiment les mots pour expliquer pourquoi on se sent bien, mais on se sent bien là-bas. Voilà.
Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure.
When I was a Jedi, I was a Jedi, when I was a Jedi,
I was a Jedi. I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. On s'électrocutait souvent lorsqu'on s'embrassait un peu trop longtemps et encore. Aujourd'hui et maintenant. Quand j'étais petit, j'étais un Jedi, tellement nerveux que lorsqu'il pleuvait, souvent je m'électrocutais. Et j'ai rencontré une fille en forme de fée, tellement nerveuse que lorsqu'elle griffait mon dos, ma peau se transformait en pyrogravure.
When I was a child, I was a Jedi.
When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was. When I was a child, I was a Jedi. When I was a child, I was a Jedi.